Fort intérieur, une émission d'Olivier Germain Thomas, préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, à la technique Georges Sautour, chargé de réalisation Didier Lagarde. Et je vous renvoie aux deux ouvrages de Daisy J. Vous pouvez voir aussi ses films, enfin les deux ouvrages dont nous avons parlé, rapidement Balzac et la petite tailleuse chinoise, parce que ce livre a eu un tel succès que vous avez eu souvent l'occasion d'en parler, et puis le dernier, dont je recommande vivement la lecture, qui m'a beaucoup enchanté, Le complexe de Di, publié aux éditions Gallimard. Et maintenant, il me reste à vous dire au revoir.
Eh bien, au revoir Olivier Germain Thomas, il est 20h30 sur France Culture et Christine Goémé brosse le portrait de Bossuet dans Une vie, une œuvre.
Sermon sur la mort, prêché au Louvre pour la 4e semaine du carême, le 22 mars 1662.
Une vie, une œuvre, Jacques Bénigne Bossuet, 1627. 1704, une émission de Christine Goémé réalisée par François Connac.
Qu'est-ce donc que ma substance, ô grand Dieu? J'entre dans la vie pour en sortir bientôt. Je viens me montrer comme les autres. Après, il faudra disparaître. Tout nous appelle à la mort. La nature, presque envieuse du bien qu'elle nous a fait, nous déclare souvent et nous fait signifier qu'elle ne peut pas nous laisser longtemps ce peu de matière qu'elle nous prête, qui ne doit pas demeurer dans les mêmes mains et qui doit être éternellement dans le commerce. Elle en a besoin pour d'autres formes, elle la redemande pour d'autres ouvrages. Cette recrue continuelle du genre humain, je veux dire les enfants qui naissent, à mesure qu'ils croissent et qu'ils s'avancent, semblent nous pousser de l'épaule et nous dire « Retirez-vous, c'est maintenant notre tour ». Ainsi, comme nous en voyons passer d'autres devant nous, d'autres nous verrons passer qui doivent à leurs successeurs le même spectacle. Ô Dieu, encore une fois, qu'est-ce que de nous ? Si je jette la vue devant moi, quel espace infini où je ne suis pas. Si je la retourne en arrière, quelle suite effroyable où je ne suis plus et que j'occupe peu de place dans cet abîme immense du temps.
Solide chez ce grand orateur bourguignon, l'étendue des savoirs, la puissance de travail, le courage de remettre les rois à leur place dans l'espèce humaine. Aujourd'hui encore, 300 ans après sa mort, il est considéré comme une des plus grandes voix du monde. Nourri de cette écoute intense qu'est la lecture patiente, minutieuse et savante, mais aussi de la fréquentation de la misère, celle des pauvres, celle aussi des riches et des puissants, sa parole absorbe toutes les expériences. Elle les transforme en pensées. Alors, comme le verbe se fait chair, la chair peut se faire verbe, enfin. Telle est la grande modernité, l'éternelle modernité de Jacques Bénigne Bossuet.
Il naît en effet à Dijon en 1627 dans une famille de magistrats, une famille de parlementaires. Ce sont des gens cultivés.
Jean-Pierre Landry.
Croyants, profondément croyants. Et ce sont des gens très austères, disons-le, n'est-ce pas? La famille s'adonne à la piété avec une ardeur marquée. La famille est une famille de notables. Vous savez que la famille, les oncles, les grands-parents sont parmi les échevins de Dijon. C'est une famille très installée. Une carrière ecclésiastique serait une belle promotion. Alors, eh bien, on le met au collège des jésuites, Et, tenez-vous bien, à 8 ans, on lui fait recevoir la tonsure des mains de l'évêque. Il est destiné à être sans doute un abbé de cour, voire un prélat de cour.
Il aura des maîtres marquants, par exemple Nicolas Cornet.
Quand il va faire ensuite ses études de philosophie et de théologie à Paris, au Collège de Navarre, il aura ce grand homme comme maître des études. Et vous savez peut-être que quand Bossuet aura soutenu ses thèses en 1652, le maître va, dans un geste que je trouve d'une élégance et d'une beauté remarquable, va lui offrir sa place, il va lui offrir sa chaire. Bossuet naturellement refusera, il a d'autres projets dont nous pourrons reparler. Et puis, deuxième détail, c'est Bossuet lui-même qui prononcera l'oraison funèbre de Nicolas Cornet à la mort du grand professeur.
Voilà. Magnifique.
C'est très beau.
Très émouvant.
Oui, tout à fait.
Il sera ami avec un homme très célèbre, qui deviendra célèbre grâce à Chateaubriand, d'ailleurs, qui est Rancé, le réformateur de la Trappe.
J'y vois là une sorte de résumé splendide de la spiritualité du XVIIe siècle. Vous rendez compte, la rencontre de Rancé, celui qui va être l'homme du silence, et la rencontre avec Bossuet, celui qui va être l'homme de la parole éclatante. D'un côté, le versant de la contemplation muette, abîmé dans une sorte de prière silencieuse, et de l'autre côté, Bossuet qui va tonner dans la chair avec des mots éblouissants. Oui, c'est dans cette tension entre silence et rhétorique que va s'installer la parole religieuse au XVIIe siècle.
Rancé et Bossuet, deux jeunes gens finalement extrêmement doués, mondains, fréquentent les salons.
Oui,
ils fréquentent les précieuses.
Oui. On dit même qu'ils vont ensemble assister à une représentation du Cid, n'est-ce pas?
Gros scandale de l'époque.
Ah oui, ce qui ne manque quand même pas de sel, si on sait que Bossuet, en 1694, n'est-ce pas, va fustiger le théâtre dans ses Maximes et réflexions sur la comédie, où je vous rappelle au passage qu'il y a une sortie très violente contre le Cid. Et puis également, oui, Bossuet va aller à l'hôtel de Rambouillet et là, à 16 ans, en 1643, il va, dit-on, faire ses premiers essais de prédicateur. Alors, tout le monde est réuni, il est près de minuit et on demande à Bossuet d'improviser un sermon. Il le fait avec un brio remarquable et Voiture, qui passait par là, Voiture aurait dit, n'est-ce pas, qu'il n'avait jamais entendu prêcher ni si tôt ni si tard. Prédication qui nous soit restée, c'est un panégyrique de Saint Gorgon, 1649, vous voyez, il a 22 ans. C'est sa première grande prédication solennelle. Auparavant, il a déjà écrit un autre texte, qui n'est pas de la prédication, qui est, je dirais presque, un petit texte à usage personnel, mais qui est capital. J'ai envie un petit peu de vous en parler, parce que ce texte, qu'il écrit en 1648, c'est pour moi le tournant de sa vie. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici nous montre un Bossuet qui se destine au fond à une carrière mondaine.
Qui est finalement le pur produit du désir de ses parents et de sa famille.
Exactement. Et puis voilà qu'en 1648, avant d'être ordonné sous-diacre, il va faire une retraite. Et pendant cette retraite, il écrit un petit texte, vous savez, ça fait 4 ou 5 pages, qui s'appelle, et Bossuet n'a que 21 ans, et il pense déjà à cela à 21 ans, un texte qui s'appelle « Méditation sur la brièveté de la vie ». Et à 21 ans, le voici qui réfléchit de façon décisive sur le sens de sa vie. Ce texte est assez admirable, il ne l'oubliera jamais, il y a des passages étonnants, vous savez, « J'entre dans la vie avec la loi d'en sortir, je viens faire mon personnage, je viens me montrer comme les autres. Après, il faudra disparaître.
Thème absolument récurrent dans tous les textes sur la mort que
mais oui.
Bossuet nous propose.
Oui, oui, oui. Cette vie qui n'est qu'un théâtre, qui n'est qu'un spectacle, duquel nous serons bientôt retranchés. Enfin, ce thème va parcourir le sermon sur la mort. Il dit par exemple encore dans la méditation sur la brièveté de la vie, si je me souviens bien, la comédie ne se serait pas moins bien jouée quand je serais demeuré derrière le théâtre. Il écrit cela à 21 ans.
Je ne suis rien. Un si petit intervalle n'est pas capable de me distinguer du néant. On ne m'a envoyé que pour faire nombre. Encore n'avait-on que faire de moi, et la pièce n'en aurait pas été moins jouée quand je serais demeuré derrière le théâtre. Encore, si nous voulons discuter les choses dans une considération plus subtile, ce n'est pas toute l'étendue de notre vie qui nous distingue du néant, et vous savez, chrétiens, qu'il n'y a jamais qu'un moment qui nous en sépare. Maintenant, nous en tenons un. Maintenant, il périt. Et avec lui, nous péririons tous si promptement et sans perdre de temps, nous n'en saisissions un autre semblable jusqu'à ce qu'enfin il en viendra un auquel nous ne pourrons arriver, quelque effort que nous fassions pour nous y étendre, et alors nous tomberons tout à coup, manque de soutien. Ô fragile appui de notre être, ô fondement ruineux de notre substance, inimagine per transito mo, ah vraiment, l'homme passe de même qu'une ombre, ou de même qu'une image en figure, et comme lui-même n'est rien de solide, il ne poursuit aussi que des choses vaines, l'image du bien, et non le bien même. Que la place est petite que nous occupons en ce monde, si petite certainement, et si peu considérable, qu'il me semble que toute ma vie n'est qu'un songe. Je doute quelquefois, avec Arnob, si je dors ou si je veille. Vigilemus aliquando, anipsum vigilare, quod dicitur somnis sit perpetui portio. Je ne sais si ce que j'appelle veiller n'est peut-être pas une partie un peu plus excitée d'un sommeil profond. Et si je vois des choses réelles, ou si je suis seulement troublé par des fantaisies et par de vains simulacres. Préterit figura huius mundi, la figure de ce monde passe, et ma substance n'est rien devant Dieu.
La rencontre avec Vincent de Paul, le moment décisif de cette rencontre se produit lors de sa deuxième retraite. Cette fois-ci, c'est avant d'être ordonné prêtre. En mars 1652, il suit une retraite prêchée à Saint-Lazare, chez les Lazaristes, fondée par Vincent de Paul, prêchée par Monsieur Vincent. Et là, l'influence de Monsieur Vincent sur Bossuet va s'affirmer de façon de plus en plus forte et même de façon, je dirais, décisive, sans doute dans deux directions. D'abord parce que Monsieur Vincent va lui inculquer l'importance fondamentale de la charité. Et je crois que le jeune Bossuet, qui jusqu'ici était né dans les ors et avait vécu dans les ors, il avait besoin de recevoir cette leçon formidable. Et Monsieur Vincent va lui faire sentir l'importance essentielle de la pauvreté. Et Monsieur Vincent va l'initier littéralement à cette prédication de charité. Ensuite, Monsieur Vincent va lui apprendre aussi, figurez-vous, la façon de prêcher. Monsieur Vincent avait mis au point ce qu'il a appelé la petite méthode. Il l'enseignait dans les conférences du mardi, et le mardi, Bossuet allait écouter ses conférences. Cette petite méthode consistait, en gros, je vais résumer, elle consistait à se débarrasser de l'encombrement des ornements rhétoriques, de tout ce clinquant superflu, de prêcher simplement la force des évangiles, de revenir à une parole simple, une parole forte, une parole vraie, une parole évangélique. Et je crois que Bossuet est grandement redevable, ici encore, à Monsieur Vincent. Précisément, la prédication sur la pauvreté, c'est à la cour, bien entendu, qu'elle trouve tout son sens, et c'est là qu'elle trouve, je dirais, toute sa force, et peut-être même toute sa force scandaleuse. Et Bossuet ne va pas se priver de faire la leçon aux courtisans. Oui, messieurs, il meurt aux portes de vos châteaux, il meurt pendant que vous vous gavez. Enfin, c'est le résumé, je crois, très exact, de la substance de sa prédication à la cour.
Une si illustre princesse ne paraîtra dans ce discours que comme un exemple le plus grand qu'on se puisse proposer et le plus capable de persuader aux ambitieux qu'ils n'ont aucun moyen de se distinguer, ni par leur naissance, ni par leur grandeur, ni par leur esprit. Puisque la mort, qui égale tout, les domine de tous côtés avec tant d'empire et que d'une main si prompte et si souveraine, elle renverse les têtes les plus respectées. Chrétiens, ne murmurez pas si madame a été choisie pour nous donner une telle instruction. Il n'y a rien ici de rude pour elle, puisque, comme vous le verrez dans la suite, Dieu la sauve par le même coup qui nous instruit. Nous devrions être assez convaincus de notre néant, mais s'il faut des coups de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand et assez terrible. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle, madame se meurt, madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille? Au premier bruit d'un mal si étrange, on accourut à Saint-Cloud de toutes parts, on trouve tout consterné, excepté le cœur de cette princesse. Partout, on entend des cris, partout, on voit la douleur et le désespoir et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète. Le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. Mais et les princes et les peuples gémissaient en vain monsieur, en vain le roi même tenait madame serrée par de si étroits embrassements. Alors ils pouvaient dire l'un et l'autre avec saint Ambroise, stringebam brachia sed iam amiseram quam tenebam, je serrais les bras, mais j'avais déjà perdu ce que je tenais. La princesse leur échappait parmi des embrassements si tendres, et la mort plus puissante nous l'enlevait entre ses royales mains. Quoi donc? Elle devait périr si tôt. Dans la plupart des hommes, les changements se font peu à peu et la mort les prépare ordinairement à son dernier coup. Madame, cependant, a passé du matin au soir, ainsi que l'herbe des champs. Le matin, elle fleurissait. Avec quelle grâce, vous le savez, le soir, nous la vîmes sécher. Et ces fortes expressions par lesquelles l'Écriture sainte exagère l'inconstance des choses humaines devait être pour cette princesse si précise et si littérale.
Les talents d'orateur de Bossuet ont été reconnus très tôt, très vite. En effet, quand on lit les oraisons funèbres, quand on lit les sermons, quand on lit du Bossuet, on a vraiment l'impression d'entendre un enregistrement sonore, tant la voix est présente dans le texte, la respiration même. Patrick Dandré, j'aimerais bien qu'on aborde un peu cette question du style de Bossuet, puisque Tout le monde s'accorde à dire que c'est la plus belle des langues françaises, certes. Mais pourquoi ?
Dans le sermon sur la véritable conversion, il médite cette phrase de Saint Jean-Baptiste, « Je suis, dit-il, une voix ». Il y a plus encore, peut-être, que la voix, il y a la vue. Et moi, ce qui m'intéresse chez Bossuet, c'est la conjonction de la voix et de la vue, c'est la manière dont, à travers la parole, effet de poète, passent des images prodigieuses. Et des images qui, vous avez parlé de raisons funèbres, parlé de serments, n'oublions pas l'historien aussi. L'historien, le polémiste, les variations de l'histoire, l'historien avec le discours sur l'histoire universelle. Il y a là l'étoffe d'un immense poète dont j'ai envie de dire que le mot qui le résume, c'est qu'il est visionnaire. Et si la parole est à ce point portée, si le style, comme vous le dites, est à ce point immense, d'une largeur qui nous transporte, c'est peut-être parce qu'il y a en lui la dimension de la vision. Vous savez, le XVIIe siècle a été obsédé de trouver son Homère et son Virgile. Il cherchait un poète épique parce que l'épopée était le genre majeur en littérature. On ne l'a pas trouvé. Chapelain a essayé, ça n'a pas réussi. La Pucelle n'était vraiment pas à la hauteur. Mais ce poète épique, celui qui a le don de vision à travers la parole, ils l'ont eu. C'est Bossuet. Et c'est Bossuet dans les images de l'histoire. Mais l'histoire est haussée à la hauteur de la légende des siècles. Dans la satire, l'esprit polémique des variations sur les protestants, mais c'est déjà les châtiments. Et l'oraison funèbre, le sermon, de quoi parle-t-il sans cesse, mais de la seule chose qui compte, c'est-à-dire de la mort. C'est-à-dire une vision du temps pénétré, du choc formidable entre l'éternité et le rien, l'arrêt. Vous avez là le Victor Hugo du XVIIe siècle.
En effet, Patrick Dandré, dans les apologies, on a le portrait, dans les portraits des saints, dans les panégyriques. Oui. Panégyriques de Bossuet sont des portraits où tout d'un coup les hommes deviennent vivants, charnels. Alors je pensais évidemment que c'était parce que à la fois dans cette parole il y avait d'un côté la plus grande des ornementations, la grande rhétorique précieuse, enfin bon, celle qui naît chez Madame de Rambouillet, et en même temps ce style très dégraissé, très épuré, qu'il va acquérir chez Saint Vincent de Paul, qui a aussi été son maître. Donc il y a cette espèce de conjonction entre le plus grand des ornements et le minimalisme le plus extraordinaire.
Il y a une réponse à cela, et la réponse, elle est dans cette dimension épique dont je parlais. La grande épopée, ils ont pensé que c'est Dieu qui l'avait écrite le mieux et que ça s'appelle la Bible. Parfois. Eh bien, Bossuet écrit à propos de l'orateur sacré, il puise tout dans les Écritures. Il en emprunte même les termes sacrés, non seulement pour fortifier, mais pour embellir son discours. Eh bien, ce rapport entre fortifier et embellir, c'est à cette rencontre que se constitue à la fois la plus grande gloire et, je dirais, le plus grand danger, le péril de l'orateur. Bossuet est parfaitement conscient du danger que sa parole, devenue trop belle, ne s'exile dans l'esthétique. Mais cette esthétique, il faut tout entier la canaliser en direction de la méditation, en direction de la persuasion à destinée de conversion, et c'est en s'abreuvant aux sources de la parole divine qu'il pourra en quelque sorte transcender ce qu'il y a de seulement beau pour aller vers ce qui est grand, c'est-à-dire ce qui élève, et ce qui élève, c'est ce qui sauve. Et vous parliez justement des apologies, des portraits. Ces portraits deviennent des visions. Et c'est en quoi je parle des visionnaires, parce qu'ils sont transcendés par ce souffle du temps, par cette conscience que, à travers la parole temporelle, le hors-temps de l'écriture s'insinue. Regardez cette conjonction fabuleuse qui se situe dans un des passages les plus célèbres, hein, l'oraison funèbre de Madame, « Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle, Madame se meurt, Madame est morte, qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille. » Nous sommes là dans la grandeur la plus totale. C'est la conjonction entre l'instant et l'éternité. Et puis, immédiatement, au premier bruit d'un mal si étrange, on a couru à Saint-Cloud de toutes parts. On trouve tout... C'est la description du concret. On trouve tout consterné, excepté le cœur de cette princesse. Partout, on entend des cris. Partout, on voit la douleur et le désespoir et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Nous sommes dans une peinture presque profane, d'un quotidien affligé. Un cran de plus, cela devient Saint-Simon et c'est la mort du grand dauphin, mais pas du tout, parce que, immédiatement, et il me semble que je vois le visionnaire, l'accomplissement de cette parole des Écritures, du prophète, le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. La conjonction entre l'instant de la mort et l'éternité promise par cette mort, il l'opère, lui, Bossuet, par la conjonction entre la parole décrivant le quotidien, le portrait dont vous parliez, et puis la transcendance dans l'écriture, car ce roi qui pleurera, ce prince qui sera désolé, ce n'est pas seulement Louis XIV ou monsieur, c'est aussi ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prévu. De nouveau, le visionnaire, l'entrée en vision du discours, l'entrée en vision par le discours. J'ai envie de dire qu'il y a chez Bossuet un art de susciter les fantômes jusqu'au seuil du fantasme. Et de ce point de vue, j'ai envie de rapprocher cela d'une chose presque anecdotique. Il faut que, si vous le permettez, Christine, je vous raconte un rite très étrange, je ne sais pas s'il est très connu, qui existait encore à la cour de France à l'époque de cette oraison funèbre. En 1669, par exemple, un an avant la mort de Madame, lorsque sa mère, Henriette de France, est morte, on a tressé en osier une effigie du personnage qu'on a mis sur le catafalque, on a recouvert cela des vêtements de la reine et on a fondu un masque de cire au trait du personnage. Et donc, ce que l'on appelait le fantôme, il y a un S que je ne peux pas prononcer, mais j'aimerais qu'on l'entende, ce fantôme était porté en cortège, on recevait les visites d'abord, c'est ce fantôme que l'on veillait, plutôt que le corps, on comprend évidemment pourquoi, mais pour des raisons triviales, hélas, c'est malheureux, mais ce fantôme était... C'est presque un rite de peuple premier, comme on dit toujours. C'est un rite quasiment d'idolâtrie. Et donc, on le transportait ensuite à Saint-Denis. Il terminait son rôle dans la sacristie. Eh bien, ce rite, il est en train de tomber en désuétude à l'époque de Louis XIV. Et sous l'influence des Italiens, dès 1670, nous sommes en plein dans les dates de l'oraison funèbre de Madame, pour la pompe funèbre du duc de Beaufort et pour celle d'Henriette d'Angleterre, on va substituer à ce rite à l'ancienne, un rite italien avec beaucoup de décorations, des peintures, des sculptures, des emblèmes, des devises, tous les ornements que la douleur peut souffrir, disent les textes du temps. C'est-à-dire quelque chose de plus peuplé, quelque chose comme un théâtre de l'agonie qui se substitue à cette image presque médiévale du gisant au visage de cire. Et j'ai envie de voir dans cette substitution qui se produit à ce moment même, dans ce passage du fantôme à autre chose, j'ai envie de voir Bossuet s'instillant dans ce creux pour y faire naître, y faire émerger le fantasme. Et jouant sur les mots, dire que nous sommes passés ainsi du fantôme d'osier, habillé avec son masque, au fantasme de la parole qui, par des effets que l'on appelait alors, soyons savants, des hypotyposes, qui donnaient l'illusion de la réalité à travers simplement les mots qui nous restituent la vision, que nous sommes passés ainsi d'une sorte d'état concret du fantôme, avec ce que cela avait presque d'un peu naïf, à cette spiritualité, une spiritualisation, si on peut dire, par le fantasme, et que la voix de Bossuet, c'est une voix fantasmatique qui, par la conjugaison du rire et du voir, aboutit à une présence de la mort a un caractère tactile de la mort. C'est ce qu'il réussit d'ailleurs à faire dans l'oraison funèbre de Madame. Il décrit cet instant. Il était en relative difficulté. La vie de Madame n'était pas très édifiante. Peu de choses à dire. On ne peut pas raconter pour elle, dans son existence, énormément de faits qui eussent un caractère méditatif, un caractère propre à convertir. Alors, qu'y avait-il à raconter? Mais ce moment, le moment de cette absence, ce coup de tonnerre qui permettait à Bossuet de donner à voir à chaud, dans l'instant, tout entier, le basculement de la défunte dans la mort, c'est-à-dire la conjonction entre notre temps, qui n'est rien, et puis le temps formidable, ou le hors-temps formidable de Dieu. C'est cette conversion, en somme, ce renversement, qui fait que le texte émerge presque d'un accablement. Il émerge, regardez comment cela commence, « Vanité des vanités, tout est vanité, c'est la seule parole qui me reste ». On dit, les gens du XVIIe ne parlent jamais d'eux-mêmes. Ah, tenez, c'est la seule parole qui me reste, c'est la seule réflexion que me permet, dans un accident si étrange, une si juste et sensible douleur. Bossuet se met à notre place. et éprouvant la même douleur que nous. Il la connaissait, il l'aimait, il la confessait, éprouvant la même
douleur. Il s'est évanoui quand elle est morte.
Voilà, du moins le dit-on. Et c'est cela qui est visionnaire, c'est cela qui est magnifique. La mise en scène de la voix de l'orateur sacré au centre du spectacle funèbre dont il va nous aider, parce que lui-même en sort, à émerger avec lui pour une méditation qui est une conversion qui nous redonne l'espoir.
Poursuivre une carrière, il va donc rester un certain temps à Metz, il va prêcher à Metz, il va y avoir une influence extraordinaire d'ailleurs. Je crois que en effet, quand on visite par exemple la cathédrale de Metz, il y a l'ombre de Bossuet autant que Hameau par exemple.
Oui, oui, mais c'est vrai. Bossuet.
Faudrait pas oublier.
Ah oui, Bossuet a fait un séjour d'ailleurs long à Metz, 1652, 1659. Et puis la famille de Bossuet, son père va s'installer à Metz d'ailleurs assez tôt, à partir des années 1640. Son père est plus messin que dijonnais, n'est-ce pas? Et peut-être pourrions-nous d'ailleurs raconter un tout petit détail. Lorsque le père de Bossuet sera veuf, il entrera en religion. Et là, il sera installé, donc chanoine à Metz, et il sera installé par qui? Par son fils, qui était précisément son supérieur hiérarchique direct, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose d'assez étonnant de voir le fils doyen du chapitre de Metz recevoir en 1664 son père entrer dans les ordres. Il y a là quelque chose d'étonnant dans ce renversement de la chronologie familiale, en quelque sorte.
Alors, on voit bien en vous écoutant, Jean-Pierre Landry, qu'il s'agit d'un catholicisme extrêmement sévère. D'un côté Saint-Vincent de Paul pour Bossuet, de l'autre côté de temps en temps des retraites à la trappe chez Rancé où vraiment la sévérité est extrême, on mange pas de viande, on ne parle à personne, enfin c'est un régime d'une grande dureté et la cour avec tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette carrière de Bossuet, prédicateur de la cour, prédicateur du roi?
Oui, la prédication de Bossuet, d'abord une petite idée reçue à chasser, à balayer. Bossuet n'a pas été toute sa vie, bien sûr, prédicateur. Comme vous le savez bien, sa carrière de prédicateur à la cour est brève, puisqu'elle dure de 1660 à 1669 seulement, comparée par exemple à la carrière de Bourdaloue qui va durer plus de 30 ans, c'est peu de choses. Alors, cette carrière de prédicateur, Bossuet va la mener avec une rigueur tout à fait remarquable, et on pourrait la suivre presque comme un roman, parce que il va y avoir des hauts et des bas, des rebondissements, des succès, et puis d'autres périodes plus en demi-teinte, voyez-vous. Et c'est vrai que Bossuet va, lorsqu'il prêche à la cour, par exemple, en 1662, pour la première fois, le carême du Louvre. Alors, c'est une station admirable. On dit toujours que c'est le chef-d'œuvre de Bossuet, le carême du Louvre. On a raison. Vous avez là le sermon sur la mort, le sermon sur la providence, le sermon sur l'ambition, le sermon sur la passion. Bon, des chefs-d'œuvre. Eh bien, cette station, semble-t-il, n'a pas tellement plu à la cour. Pourquoi? Parce que Bossuet a voulu faire un exposé des idées politiques du parti dévot. Bossuet n'avance pas masqué. Bossuet, ici, dit très clairement sa conception d'une cour qui devrait être plus morale. Oui, Bossuet rêve d'imposer un ordre moral, condamnation du libertinage, une politique chrétienne. Et si vous voulez, cela va profondément choquer, à tel point que il devra attendre 3 ans pour être à nouveau rappelé à la cour. 1665, pour l'avant du Louvre. Vous voyez que Bossuet, à la cour, reste lui-même. Hein. Il reste courageux en toutes circonstances. Et je crois que, oui, Bossuet n'est pas un courtisan. Il est à la cour un homme d'église. Et c'est d'ailleurs vraisemblablement pour cela que Bossuet va plaire. Parce qu'il reste cet homme à la parole authentique, sans concession. Bossuet a été nommé évêque de Condom en 1669, mais jamais il ne pourra rejoindre son siège épiscopal et il se démettra de sa fonction parce que il va être nommé précepteur du dauphin. Alors, Louis XIV, le 5 septembre 1670, a reçu une liste de 100 noms. 100 personnalités qui seraient dignes de remplir cette fonction, et il choisit un nom sur ces 100, c'est le nom de Bossuet.
Alors quels sont les autres en lice?
Oh, il y en avait de nombreux, je pense qu'il y avait Fleury, etc. Beaucoup d'ecclésiastiques essentiellement.
L'abbé Fleury?
L'abbé Fleury, oui, oui. Et vous savez que Bossuet, à ce moment-là, a été bien embarrassé, n'est-ce pas? Parce que, qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait renoncer à l'épiscopat, cela signifiait en grande partie aussi renoncer à tout ce qui le passionnait, c'est-à-dire des charges pastorales. Mais c'était une mission essentielle que de former le futur roi de la France. Hein, Monseigneur devait devenir roi de France.
Alors, il paraît que cet enfant était odieux et un peu stupide. Est-ce que c'est vrai?
Je ne sais pas, mais cette mauvaise langue de Saint-Simon, mais vous savez que Saint-Simon n'est pas une perfidie près, insiste beaucoup sur la médiocrité du dauphin, absorbé, dit-il, avec cette plume trempée dans le vinaigre. Il écrit qu'il était absorbé dans sa graisse et dans ses ténèbres. Alors, je crois que c'est un peu sévère, parce que jamais un élève aussi mauvais n'aurait pu suivre les cours que donnait Bossuet. Car on a une idée, n'est-ce pas, des cours que Bossuet pouvait donner, parce que Bossuet a tiré de son enseignement un certain nombre d'ouvrages qu'il a publiés. Alors vous savez, le discours sur l'histoire universelle, le traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, qui est tout simplement son cours de philosophie. Et ce cours de philosophie, croyez-moi, il n'est pas des plus simples, il n'est pas des plus aisés. Et puis, Bossuet lui enseigne l'histoire, la grammaire, toutes les disciplines essentielles. Bossuet va rédiger des grammaires latines et françaises, hein, à l'intention du dauphin. Et Bossuet va faire ce travail avec un sérieux extraordinaire. Alors, je ne sais pas si le dauphin a vraiment profité des leçons. Vous savez qu'il est mort prématurément et que nous ne saurons jamais si l'enseignement de Bossuet aurait été en mesure de faire un grand roi, un immense roi à la mesure de Louis XIV, mais en tout cas, incontestablement, les œuvres qui sont sorties de ce travail sont des œuvres de haute qualité.
Bossuet publie son discours sur l'histoire universelle une première fois à Paris en 1681 et une seconde fois à peine remanié l'année d'après. Il reprend là un travail fait pour son élève le Dauphin. Ce texte, Gérard Ferrérol, est très inspiré par la Bible, mais quelles en sont les autres sources et quelle vision Bossuet a-t-il de l'histoire ?
Donc il y a une partie qui est évidemment d'ordre de l'érudition, avec ce que ça suppose de connaissance des historiens antiques, de Polybe en particulier, et puis aussi pour l'interprétation globale des événements historiques. Cela suppose le recours, comme vous l'avez dit, à la Bible, mais aussi à Saint-Augustin, et même à mon sens, même si la chose est moins souvent mise en relief, il recourt à Saint-Thomas.
Saint-Thomas, peu cité dans les sources de Bossuet, bizarrement.
En effet, oui. Je crois que l'influence de saint Thomas est capitale pour le XVIIe siècle. On connaît l'influence de saint Augustin. Il y a un fameux article qui date déjà d'il y a une cinquantaine d'années qui avait pour titre « Le XVIIe siècle, siècle de saint Augustin ». On pourrait dire aussi en un sens que c'est le siècle de saint Thomas, tout simplement parce que c'est saint Thomas qui forme l'ossature par, je dirais, Aristote interposé
de
la formation philosophique.
Au concile de Trente également.
Exactement, au concile de Trente, les pères ont déposé au centre de leur assemblée la Bible et à côté la somme théologique de saint Thomas. Donc c'est une référence, je ne dirais pas absolue, parce que la référence absolue du christianisme, c'est le Christ par définition, mais depuis que saint Thomas est canonisé, depuis qu'il a été nommé docteur de l'Église, les papes n'ont pas cessé de recommander son enseignement comme référence jusqu'à Jean-Paul II, je pense à l'encyclique Fides et Ratio, mais il y en a toute une série d'autres auparavant. Donc c'est Aristote qui forme le fondement, le socle de la formation philosophique au XVIIe siècle, et aussi qui donne, mais évidemment par la médiation de saint Thomas, ces catégories à la formation également théologique. Et comme Bossuet est un docteur de Sorbonne, il a reçu cette formation qu'il a complétée par saint Augustin et par les pères. Mais du point de vue de la précision des concepts et de leur jeu, il y a au moins de façon sous-jacente chez Bossuet la référence aux catégories de pensée aristotélicienne et thomiste.
Et par Saint-Augustin, platonicienne.
Également. Oui, oui. Et il y a des notes éditées par Madame Thérèse Goyer, des notes de lecture très très abondantes et serrées, prises par Bossuet et sur Platon et sur Aristote.
Thérèse Goyer, vous avez passé, on pourrait dire, votre vie à travailler sur Bossuet. Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez comment il se fait qu'on découvre encore des manuscrits inconnu de Bossuet, puisque vous-même, vous en avez découvert.
D'abord, on découvre des manuscrits qui ne sont pas inconnus, qui sont parfaitement rangés à la Bibliothèque nationale depuis la royauté, depuis la première édition au temps de Louis XV. Ils ont été connus posthumes parce que le neveu a hérité et a gardé le trésor. A gardé le trésor, l'a exploité comme il a pu, et l'édition... La première bonne édition est venue vers 1780 par Don de Foris, qui n'a pas pu l'achever parce qu'il a été sur l'échafaud. Il y a un admirable dépôt à la bibliothèque royale, nationale, que tout le monde peut aller consulter, et bien catalogué, bien rangé. Et puis, il y en a chez les marchands. Et alors là, je ne saurais pas vous dire d'où ils viennent. Ils se sont échappés sans doute quand le libraire de Foris, ou son successeur, parce que de Foris était mort sur l'échafaud, a dû rendre les manuscrits. Il y en a qui n'ont pas été rendus. Alors ils sont ici et là, et ils reviennent de temps en temps. Il n'y a pas de choses imprévues. Ces choses rentrent dans des travaux de Bossuet. Mais enfin, c'est une intimité qu'ils apportent qui m'a comblée.
Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, par exemple?
Trouvé.
Et où
Alors, d'abord, j'ai fait confiance à la collection de la Bibliothèque nationale, qui était en principe un peu utilitaire, puisque c'était des notes de lecture d'Aristote sur Aristote et Platon. Et elles ne sont quelquefois que pratique. Mais j'ai cru qu'à travers ce pratique, on verrait des éclats de l'âme. Trouver les habitudes graphiques de l'écrivain, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On est avec lui dans sa main. Alors là, je passais quelques années, mais ce n'est pas difficile. J'ai trouvé les notes de lecture, et ces notes de lecture sont quelquefois purement mnémoniques, et puis d'autres fois, ce sont des éclats de sa pensée. Et il y a quelques rédactions. quelques rédactions suivies où il donne son avis sur la philosophie antique.
Donc, on n'a pas encore, disons, à notre disposition l'œuvre complète, en tout cas, de Bossuet, Thérèse Goyer.
On a l'œuvre complète.
On a l'œuvre complète.
On a l'œuvre complète par une grande chance, c'est que ces sermons n'ont pas été publiés de son vivant. Ils sont restés dans les portefeuilles du neveu. Et si bien qu'ils ont été pris dans un très bon état. Ils n'avaient pas été tripatouillés par les méthodes éditoriales du temps. Ah si, on a l'œuvre complète. Simplement, il y a des marges, des commentaires, des prises de position, des éclats. Mais quelquefois aussi beaucoup de mots d'admiration pour les penseurs humains. Les penseurs humains et les héros de la création politique.
La grande source du discours sur l'histoire universelle, c'est la cité de Dieu de saint Augustin. Il n'y a pas de doute, et bon, saint Augustin est considéré comme l'un des grands fondateurs de la théologie de l'histoire. Et c'est cette perspective globale que Bossuet a de l'histoire. Alors on pourrait reprendre les points sur lesquels il est dans la ligne augustinienne, ceux sur lesquels il peut légèrement se distinguer, mais l'un de ceux sur lesquels il se distingue, c'est justement la distinction précisément qu'il fait entre ce qui est connaissance scientifique de l'histoire et interprétation théologique de l'histoire. Parce que pour Aristote, comme pour les thomistes, l'ordre surnaturel ne détruit pas, n'absorbe pas l'ordre naturel. Donc cet ordre naturel a une certaine consistance, et il en est de même de l'histoire humaine. Elle peut être appréhendée par la raison et avoir l'autonomie d'une science. Alors que saint Augustin, parce que ce n'était pas son dessein, dans la cité de Dieu, mêle les deux cités, la cité terrestre, la cité humaine. Bossuet, lui, consacre une partie à la suite des empires et une partie à la suite de la religion. Les deux sont distingués. Et donc, dans la suite des empires, il y a une sorte de concaténation rationnelle qui permet d'expliciter le développement et la chute de ces empires. Donc, il y a une relative autonomie de la science. Alors, il faut évidemment creuser ce rapport entre nature et surnature, quant à ce qui concerne l'histoire, mais il y a une lecture autonome, rationnelle, possible de l'histoire. Bossuet est l'un des grands précurseurs, par exemple, de Montesquieu, dans ses considérations sur la grandeur et la décadence des Romains.
Il faut rappeler au passage que, de toute façon, saint Thomas, c'est le XIIIe siècle, c'est donc le grand siècle d'Aristote, et que son projet, c'est quand même d'accorder la raison et la foi, et de en même temps libérer la foi de la raison et la raison de la foi d'une certaine manière. En ceci, il autorise quand même justement des perspectives beaucoup plus rationnelles, une vision scientifique du monde, etc., etc., en effet.
Tout à fait. Je veux dire que le providentialisme de Bossuet ne suppose pas que l'on fasse l'économie des causalités naturelles. Et c'est l'articulation des deux qui est particulièrement intéressante dans son discours sur l'histoire universelle. Si on prend la dernière partie, bon, je vous donne le titre du premier et du dernier chapitre.
Dites-nous comment, découper cette histoire universelle, Gérard Ferrero.
Oui.
Il
y a trois parties. Voilà. La première partie, c'est ce qu'il appelle les époques, c'est-à-dire en somme un résumé de l'histoire depuis la création, qu'il passe en 4004, jusqu'à Charlemagne. La suite de l'histoire universelle, la deuxième partie n'a jamais vu le jour, elle devait passer de Charlemagne jusqu'à Louis XIV, mais celle-là, elle n'a pas été écrite. La seconde partie est intitulée « La suite de la religion » et la troisième « Les empires ». Et justement, comme je le disais tout à l'heure, cette différenciation entre suite de la religion et suite des empires montre que Bossuet, même s'il pense, comme Augustin, que les deux cités sont mêlées dans l'histoire, et il pense qu'on peut lire de façon non pas indépendante, mais distincte, l'une et l'autre. Donc il y a une causalité divine qui s'exerce dans la suite de religion. Cette même causalité s'exerce dans la suite des empires, mais elle n'empêche pas les causalités naturelles qui sont de tous ordres, d'ordre politique, d'ordre institutionnel, d'ordre militaire, d'ordre économique.
Alors, vous avez prononcé tout à l'heure le mot de providentialisme de Bossuet. Alors, il a beaucoup travaillé sur la providence, il y a énormément de textes qui parlent de la providence. La providence, c'est intéressant parce que c'est pas un des noms de Dieu. C'est tout à fait... Alors qu'est-ce que c'est au fond la providence pour Bossuet? Parce que c'est pas Dieu, c'est pas non plus le fatum antique, mais c'est quelque chose qui se situe au croisement des deux en quelque sorte.
Vous avez tout à fait raison de dire que c'est pas un des noms de Dieu. Le mot de providence n'apparaît presque pas dans la Bible, par exemple. On le trouve, sauf erreur, deux fois dans le dernier livre de la Bible chronologiquement, c'est-à-dire la Sagesse. Ce livre qui était écrit directement en grec, la pronoia. Donc c'est un concept en fait d'origine stoïcienne, alors repensé, retravaillé par le christianisme. Donc ce n'est pas un nom de Dieu. Alors il n'y a pas de définition de la providence chez Bossuet, mais je pense qu'on pourrait lui appliquer par exemple la définition thomiste, parce qu'il y a un chapitre, plutôt une question de la Somme théologique qui s'intitule De Providentia Dei, donc la providence de Dieu, que Bossuet suit de très près dans son sermon sur la providence. Et dans cette question de Thomas, on trouve aussi une définition, on peut considérer qu'elle vaut pour Bossuet. Saint Thomas appelle la providence, alors je parle d'autres considérations, comme le fait que c'est une partie de la prudence, mais la providence, c'est l'orientation vers leur fin donnée par toute chose à Dieu. Et c'est exactement ce qui vaut pour Bossuet, parce que cette action divine vaut pour l'ensemble de la nature et aussi vaut pour l'histoire. Il y a une très belle formule de saint Thomas qui dit que Dieu a donné à l'homme la dignité de la causalité. C'est, je crois, à travers ce prisme-là qu'on peut lire l'histoire selon Bossuet. C'est-à-dire que l'homme est bien libre, et donc libre de choisir le mal, et il ne s'en prive pas dans l'histoire. Mais en même temps, tout ce qui peut être bien, et tout ce qui peut être de l'ordre, de l'être, même dans les actions mauvaises, doit être référé à Dieu. Alors, ce n'est peut-être pas extrêmement clair dit comme cela, je vais peut-être essayer de le dire de façon plus satisfaisante. Et il y a une double causalité qui s'exerce sur l'histoire. L'homme est bien la cause de ses actes. Mais Dieu étant la cause de la cause, on peut aussi lui référer ultimement ses actes qui paraissent dans l'histoire. Alors, on ne va pas lui référer le mal de ses actes, mais ses actes en tant qu'ils sont et en tant qu'il y a du bien en eux, même lorsqu'ils sont mauvais. Je prendrai l'exemple que donne Bossuet dans le discours sur l'histoire universelle de la chute de Babylone. Pourquoi Babylone est-elle tombée sous les coups de Cyrus? Eh bien, vous avez deux explications, mais qui ne s'excluent pas. Simplement, elles se situent à deux niveaux. Babylone est tombée parce qu'elle a été châtiée par Dieu de son arrogance. Voilà la causalité divine telle qu'elle s'exprime immédiatement. Mais en même temps, cela n'empêche pas Bossuet de chercher des causes purement humaines à cet événement. Et il dit, Babylone est tombée par sa propre faute. Non pas parce qu'elle aurait été arrogante, cela c'est vrai, mais aussi pour des raisons tout à fait pratiques et humainement discernables. Bossuet nous dit que finalement c'est Babylone qui très concrètement a causé sa propre chute. Alors il nous explique pourquoi, parce qu'il y a une reine de Babylone qui a détourné le cours de l'Euphrate, quelques années avant l'invasion de Cyrus. Elle l'a détourné pour reconstruire un pont entre les deux rives de la ville. Et puis Cyrus, quelques années après, n'arrivant pas à prendre Babylone par la force, s'est souvenu de cet événement et a à son tour détourné le cours de l'Euphrate et comme cela a pris Babylone. Donc il y a une causalité purement humaine qui est doublée par une causalité divine. Dieu veut punir Babylone, mais en même temps, il l'a puni en utilisant des causalités purement humaines. Cyrus s'est souvenu de ce stratagème possible. Si on pose un dieu créateur, il n'est pas irrationnel d'en déduire qu'il s'intéresse à sa création, et que par définition, comme il est omnipotent, il doit bien intervenir dans l'histoire. Alors comment le fait-il? En préservant la liberté humaine. Donc Bossuet nous donne, dans la ligne thomiste et dans la ligne augustinienne, une direction. Il y a d'autres éléments d'ailleurs dans son approche. Il y a toute une dimension esthétique de la Providence. Là, c'est l'aspect augustinien. Il me semble que on a beaucoup parlé donc à l'instant de cette vision thomiste de Bossuet avec les catégories de cause première et de cause seconde qu'il n'emploie pas telles quelles encore une fois parce qu'elles sont
les aménages.
Voilà, il parle de cause particulière et de cause universelle. Cause universelle au singulier, c'est Dieu. C'est intéressant de voir comme il civilise en quelque sorte la technicité thomiste. Mais du côté augustinien, il prend à la fois l'aspect esthétique et l'aspect dialectique de la Providence. L'aspect esthétique parce que pour Augustin, tout le cours de l'histoire est comme un grand tableau. Il transforme le temps de l'histoire en espace. C'est un grand tableau. Les méchants jouent le rôle des ombres qui rehaussent la lumière.
C'est beau, on sait qu'il fréquentait beaucoup Lebrun, n'est-ce pas? Donc, ça a dû marquer son esthétique en réalité.
Tout à fait. Le sermon sur la Providence commence par une image qui est celle de l'anamorphose. C'est-à-dire que l'histoire est un tableau qui semble au premier abord être totalement inintelligible. Ce n'est qu'un chaos de couleurs et de formes. Mais si on le regarde sous un certain angle, à partir d'un certain point, à ce moment-là, le chaos se débrouille et le sens de cette histoire arrive à s'ordonner.
C'est beau.
On pourrait le lire à la limite, ça fait 10 lignes.
Allez-y.
C'est un passage splendide. C'est le début du premier point du sermon sur la Providence. Alors il y a deux sermons sur la Providence, mais c'est celui de 1662 du carême du Louvre qui est le grand sermon. Quand je considère en moi-même la disposition des choses humaines, confuse, inégale, irrégulière, je la compare souvent à certains tableaux que l'on montre assez ordinairement dans les bibliothèques des curieux comme un jeu de la perspective. La première vue ne vous montre que des traits informes et un mélange confus de couleurs qui semble être ou l'essai de quelque apprenti ou le jeu de quelque enfant plutôt que l'ouvrage d'une main savante. Mais aussitôt que celui qui sait le secret vous les fait regarder par un certain endroit, aussitôt toutes les lignes inégales venant à se ramasser d'une certaine façon dans votre vue, toute la confusion se démêle, et vous voyez paraître un visage avec ses linéaments et ses proportions où il n'y avait auparavant aucune apparence de forme humaine. C'est, ce me semble, messieurs, une image assez naturelle du monde, de sa confusion apparente et de sa justesse cachée, que nous ne pouvons jamais remarquer qu'en le regardant par un certain point que la foi en Jésus-Christ nous découvre.
Il y a une partie de l'œuvre qu'on a forcément un peu laissée de côté, mais j'aimerais bien qu'on revienne tout de même sur cette partie de l'œuvre qui sont les grands panégyriques aux saints, qui sont des manières de fonction, des exemplats,
oui.
Des exemplés, pardon.
Oui, mais vous avez raison. Le panégyrique est un genre que d'ailleurs Bossuet, en quelque sorte, revisite. C'est-à-dire que Bossuet ne va pas faire du panégyrique simplement l'éloge du saint, une hagiographie, une sorte de compliment continu pendant une heure et demie d'un saint
exemplaire. C'est pas la légende dorée, quoi.
Non, pas du tout, vous avez raison. Et même, quelquefois, moi, je suis un peu choqué par les réticences que manifeste Bossuet. Par exemple, dans son panégyrique de François de Sales, en 1665, si mes souvenirs sont bons, mais il écrit, oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la doctrine de ce saint. Il n'est pas toujours très sûr sur la doctrine. Alors, Alors, qu'est-ce que ça cache? Ça cache tout simplement le fait que François de Sales est d'une douceur, d'une miséricorde, d'une mansuétude, telle que l'austère Bossuet, n'est-ce pas, le sévère Bossuet, le rigoureux Bossuet, trouve que tout de même, il faudrait peut-être un peu plus de, comment dirais-je, de, je ne dirais pas de sérieux, mais un peu plus de fermeté sur la doctrine, voilà. Alors vous voyez que Bossuet va nous donner avec ses panégyriques au fond ce qui peut faire un grand triptyque de sa prédication, les sermons, les oraisons funèbres, les panégyriques, et je crois que les trois parties sont très équilibrées, très intéressantes, et toutes les trois au fond aussi passionnantes, les trois parties de sa prédication, les trois grands genres de la prédication. Sermon, oraison funèbre et panégyrique.
Ainsi, deux desseins et deux ouvrages de Dieu forment toute la suite de son œuvre dans le monde. Ces deux ouvrages semblent diamétralement opposés entre eux, car l'un est un ouvrage de sagesse, l'autre un ouvrage de folie. Dans le premier ouvrage, Dieu se contentait de se montrer, et pour cela, la proportion y était nécessaire, comme devant être une image de sa sagesse et de sa beauté immortelle. C'est pourquoi tout y est avec mesure, avec nombre, avec poids. Omnia in mensura et numero et pondere. Il a étendu son cordeau, dit l'Écriture. Il a pris au juste ses alignements pour composer, pour ordonner, pour placer tous les éléments. Ici, non content de se montrer, il veut s'unir à sa créature, c'est-à-dire l'infini avec le fini. Il n'y a plus de proportion ni de mesure à garder. Il ne s'avance plus que par des démarches insensées. Il saute les montagnes et les collines, du ciel à la crèche, de la crèche par divers bonds sur la croix, de la croix au tombeau et au fond des enfers, et de là au plus haut des cieux. Tout est sans ordre. Tout est sans mesure. Par les mêmes démarches que l'infini s'est joint au fini, par les mêmes, le fini doit s'élever à l'infini. Il doit se libérer et s'affranchir de toutes les règles de prudence qui le resserrent en lui-même afin de se perdre dans l'infini. Et cette perte dans l'infini, parce qu'elle met au-dessus de toutes les règles, paraît un égarement. Telle est la folie de François. La perte de la raison fait perdre trois choses. Premièrement, les insensés perdent les biens. Ils n'en connaissent plus la valeur, ils les répandent, ils les prodiguent. Secondement, ils perdent la honte. Louanges ou opprobre, tout leur est égal. Ils s'exposent sans en être émus à la dérision publique. Troisièmement, ils se perdent eux-mêmes. Ils ne connaissent pas l'inégalité des saisons, ni les excès du froid et du chaud. Ils ne craignent pas les périls et s'y jettent à l'abandon avec joie. François a perdu la raison, non point par faiblesse, mais il l'a perdue, heureusement, dans les ténèbres de la foi. Ensuite, il a perdu les biens, la honte et soi-même. Non seulement il néglige les biens, mais il a une avidité de les perdre. Non seulement il méprise les opprobres, mais il ambitionne d'en être couvert. Non seulement il s'expose aux périls, mais il les recherche et les poursuit. Oh, le plus insensé des hommes selon les maximes du monde, mais le plus sage, le plus prudent, le plus avisé, selon les maximes du ciel.
Lebrun. Un petit détail, par exemple, qui nous montre bien et qui, moi, m'a toujours convaincu, enfin, m'a fait peut-être comprendre ce qu'était Bossuet. Mais comme dans beaucoup d'autres cas, ce qui permet de connaître quelqu'un, c'est le catalogue de sa bibliothèque.
En effet.
Nous n'avons pas le catalogue de la bibliothèque de Fénelon, nous n'avons pas celui de la bibliothèque de Pascal. Mais, par chance, nous avons le catalogue très précis de toute la bibliothèque de Bossuet. Plusieurs milliers de volumes dont nous savons exactement l'édition, la date de publication, la précision, enfin. Et nous avons là plusieurs milliers de volumes, catalogue établi après sa mort, nous voyons l'étendue de sa culture. Et d'autre part, ce sont des livres sur lesquels il a travaillé. Ce ne sont pas des livres que l'on a dans sa bibliothèque pour faire admirer les reliures, mais ce sont des livres qu'il a travaillé, dont on retrouve dans ses œuvres. On retrouve dans ses œuvres les citations, et voilà. Nous savons donc de quelle édition il se servait, ce qu'il a lu. Nous avons des notes de lecture considérable. Nous avons également quelques exemplaires de Bossuet qui ont des soulignements, des notes marginales. Bon, nous n'en avons pas beaucoup parce que si nous connaissons le catalogue, nous n'avons pas les livres eux-mêmes, mais nous avons quand même une petite dizaine de livres et nous voyons comment Bossuet travaillait. Bossuet est aussi disciple de Descartes. Nous avons conservé, parmi les quelques ouvrages que nous avons conservé le Descartes de Bossuet. Ses théories, sa physiologie, sa conception de l'homme, sa conception du corps, suit de très près le mécanisme cartésien. Bossuet a commenté Descartes et son traité de la connaissance de Dieu et de soi-même est un traité qui ne serait pas pensable sans Descartes. C'est une bibliothèque d'un érudit, d'un homme de travail, d'un homme qui ne se perd pas, enfin ne veut pas se perdre dans ce qu'il imagine être des abstractions, qui pense que c'est le sérieux de l'érudition, du fait, du texte. Évidemment, ça a des considérables conséquences, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que Bossuet possède une érudition d'un sérieux que tout le monde reconnaît, le discours sur l'histoire universelle, l'histoire des variations contre les protestants, ce sont des livres nourris de citations précises, rigoureuses. Mais la contrepartie, c'est que tout ne peut pas être résolu, être traité par des livres, par des citations. Il y a bien des problèmes, bien des questions, ça, nous le savons, qui exigent autre chose que de l'érudition, autre chose que des textes, autre chose que des raisonnements. Et c'est là où l'on voit à la fois le mérite et les limites de l'esprit de Bossuet, des méthodes de travail de Bossuet. Il y a une chose qui m'a paru tout à fait significative, c'est la façon dont Bossuet a écrit, a rédigé un certain nombre de prières. En particulier, ce qui est une prière que les mystiques font, et normalement ce qu'on appelle l'acte d'abandon, qu'on s'abandonne à Dieu. J'ai été très frappé de voir que lorsque Bossuet écrit des actes d'abandon, c'est le « je » qui domine à chaque phrase. « Je m'abandonne, je me laisse », etc. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait significatif qui va au-delà du simple détail de style. C'est qu'on peut s'abandonner en posant le jeu de l'homme et justement en construisant une sorte de personnalité, d'individualité, en renforçant son individualité au moment même où l'on dit qu'on l'abandonne. Et je crois qu'il y a là une prière tout à fait authentique de Bossuet, mais Bossuet ne peut prier que par des actes, que par des images, que par des paroles, que par des mots. Et cela aboutit certainement à un lyrisme qui a une très grande beauté, un véritable lyrisme, une utilisation de toutes les ressources de la rhétorique pour nourrir cette prière. Il y a une sorte de fascination de l'image chez Bossuet, un jeu sur toutes les images du style, un jeu sur l'expression, sur toutes les figures de rhétorique. Il y a quelque chose de très beau au service d'une prière, mais d'une prière qui devient la prière de tout ce qui est l'homme, de toutes ses facultés, mais non pas la disparition de ses facultés, non pas la perte de ses facultés, non pas l'effondrement, si l'on veut, des facultés. Et je crois qu'il y a un point dans l'expérience mystique que Bossuet ne pouvait pas comprendre. Je crois que ce n'était pas simplement de l'ordre de l'affect, mais c'était de l'ordre de la compréhension. Comment comprendre que l'homme puisse se poser en se détruisant? Comment la perte elle-même peut être la visée d'un acte de rapport avec Dieu? Alors qu'au contraire, pour Bossuet, ce sont toutes les ressources de la raison, de l'affectivité, de la sensibilité, du sens esthétique, etc. Mais qu'il y ait un type de sensibilité religieuse et qui soit le non-voir, le non-comprendre, l'abolition même de la sensibilité. C'est la mystique qui met dans un acte d'amour parfaitement pur, c'est-à-dire un amour dont le critère serait la destruction même de celui qui aime, cela, Bossuet, avec la meilleure volonté, ne peut pas le comprendre. Bossuet, je crois, ne peut pas le comprendre, n'a pas pu le comprendre. Et donc, il ne pourra pas comprendre les efforts, peut-être difficiles, voire désespérés, d'un Fénelon, pour essayer de penser une expérience aussi radicale d'anéantissement, qui était d'ailleurs une génération avant, l'expérience d'un Saint-Jean de la Croix, par exemple.
Alors, les combats de Bossuet, donc Fénelon, la mystique, les libertins, les protestants.
Les critiques.
Oui.
Bossuet.
C'est une machine de guerre, quand même, cette magnifique rhétorique.
Oui, et de plus en plus.
Le théâtre.
Le théâtre aussi. De plus en plus.
Et finalement, le monde lui-même, puisque dans le traité de la concupiscence, c'est ça qui est visé. Le monde.
Oui, c'est le traité de la concupiscence, et je crois, un des plus beaux textes de Bossuet et des plus significatifs. Vraiment, ce refus du monde, le monde qui est à la fois le monde d'une certaine forme d'intelligence, l'intelligence critique, où il voit immédiatement du libertinisme, bien que la critique de Richard Simon soit une entreprise apologétique et d'une efficacité certainement, peut-être au moins aussi grande.
Vous pouvez nous rappeler en deux mots
Richard Simon a étudié le texte de la Bible avec toutes les ressources de l'érudition, mais en étudiant la façon dont était fabriqué le texte de la Bible. Ne prenant pas le texte de la Bible comme un ensemble de vérités qui, pour ainsi dire, tombe du ciel, dirions-nous familièrement, mais comme un texte fabriqué, comme tous les textes humains. Et c'est dans l'acte de la fabrication que Richard Simon mettait l'inspiration. L'inspiration n'était pas une sorte de dictée de Dieu qui mettait dans l'oreille, suivant les tableaux où l'on présente l'évangéliste avec un ange qui lui souffle dans l'oreille le texte sacré. Non, pour Richard Simon, l'inspiration, c'est le moment où s'écrit le texte. C'est dans une expérience d'écriture, mais comme toute écriture humaine. Et donc, Richard Simon pense qu'il y avait, c'était une sorte de fiction historiographique, des scribes inspirés, comme il le disait, qui, dans les royaumes d'Israël, étaient chargés d'écrire le style. C'était eux qui étaient inspirés, mais eux qui écrivaient un texte comme on écrivait tout autre texte. Et donc Richard Simon étudie en quelque sorte, je dirais avec un terme moderne, anachronique, la fabrication du texte, comment le texte est fabriqué. Alors que Bossuet voyait devant cela quelque chose qui pouvait faire détruire complètement ce texte, comment ce texte pouvait être à la fois fabriqué par des hommes et en même temps inspiré par Dieu. Richard Simon découvrait que c'était dans l'écriture elle-même qu'était le secret du texte. Bossuet voyait dans cette théorie la destruction même de toute inspiration. Il n'était pas possible que l'un et l'autre s'entendent ou se comprennent. Il est évident que les théories de Richard Simon, même si dans le détail elles sont complètement obsolètes, personne ne croit plus à une sorte de caste de fonctionnaires hébreux inspirés qui étaient chargés d'écrire.
Enfin, l'entreprise de pensée était belle.
Et ensuite, lorsque tout le monde a étudié la ligne, pensait comment ce texte était fabriqué, quel était le style, ne pense plus ensuite qu'il y a là une sorte de texte dicté surnaturellement où la main de celui qui écrivait était tenue par la main de Dieu. Plus personne, sauf peut-être encore aujourd'hui beaucoup de fondamentalisme dans différentes religions, pense encore que le texte sacré est un texte qui tombe du ciel, est intangible, intouchable, est un texte divin dans la moindre virgule. C'est à cela que s'opposait Richard Simon. Donc nous avons là, je crois, des formes d'esprit différentes, et la forme d'esprit de Bossuet le rendait difficilement capable de comprendre une autre position. Et avec la mystique, c'était la même chose. Avec la mystique, Bossuet ne comprenait pas comment on pouvait penser, comme nous le disions tout à l'heure, la pureté d'un acte où s'abolissait la personnalité de celui qui posait cet acte. Comment la perte même de la personnalité pouvait être la pointe ultime d'un acte d'amour. Comment l'acte d'amour était dans sa pointe la perte de celui qui aimait. Car c'était une perte aux yeux de Bossuet à la fois de l'intelligence, une perte de l'imagination, donc de la raison, de l'image, une perte de l'acte lui-même, et lorsque les mystiques parlaient de passivité, ou plus exactement de passiveté, montrant qu'il ne s'agissait pas d'oisiveté, mais ce qu'ils appelaient un acte passif, donc un acte dans lequel celui qui pose l'acte se laisse lui-même pénétrer par la force qui lui fait poser l'acte, eh bien, cela, Bospin ne pouvait pas le comprendre. Et il ne s'agit pas de lui jeter la pierre ou de le dénoncer, mais
oui,
de voir
que
nous avons des formes d'esprit.
Ça n'entrait pas dans dans sa manière de concevoir la vie, le monde.
Non, il ne pouvait pas le comprendre.
En effet, alors il y a cette polémique, cette arme de guerre contre, au fond, une critique finalement extrêmement intelligente de la Bible. Il y a une critique contre Fénelon, qui d'ailleurs a reculé d'effroi, parce que je crois que le Bossuet était d'une force, d'une violence.
C'est-à-dire que Bossuet a fait pression, a fait toutes les pressions politiques possibles.
Il a été d'une violence terrible.
Oui, mais Bossuet ou ceux qui soutenaient Bossuet ne l'ont emporté que parce que Rome a eu peur des réactions de Louis XIV. Et la position de Fénelon avait la sympathie de bien des théologiens à Rome. Mais évidemment, Bossuet allié à Louis XIV avait une force et une puissance évidemment beaucoup plus grande.
Alors Bossuet a aussi ressuscité Molière pour pouvoir l'assassiner davantage.
Oui, la carrière de Bossuet, plus elle avance, est une lutte sous tous les fronts et une lutte peu à peu perdue. C'est même ce qu'il y a. Oui. C'était Paul Hasard qui disait que ces dernières années de Bossuet avaient quelque chose de tragique et que Bossuet mourait il y a 300 ans, en 1704, mourait finalement vaincu. Vaincu par les qualités même, je dirais, qu'il mettait dans la lutte. Vaincu, bien que à la fois tout cet esprit rationnel, cet esprit imaginatif, ce lyrisme, tout cela, fussent des qualités certaines. Ce n'était pas simplement, un médiocre vaincu. Bossuet était vaincu dans l'ensemble de ses luttes, mais les armes par lesquelles il avait lutté étaient des armes qui était loin d'être méprisable. Et je crois que ce qui nous frappe maintenant beaucoup plus qu'autrefois dans le cas de Bossuet, c'est la destinée paradoxale des combats de Bossuet. Ce qui me frappe à la fois dans la politique de Bossuet, dans la théorie de l'histoire de Bossuet, également dans son approche de la science des textes, disons à propos de l'exégèse biblique par exemple, dans la spiritualité, c'est la croyance extrêmement forte dans la raison. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait paradoxal, dans la mesure où la raison au XVIIe siècle n'était jamais séparée de la divinité. La raison, c'est ce que Dieu met dans l'esprit de l'homme. Si l'homme suit sa raison, il suit la voix de Dieu en lui. Or, très vite, et cela dès le XVIIIe siècle, ce que l'on peut désigner comme le rationalisme foncier de Bossuet a eu paradoxalement une influence bien différente de celle que pensait Bossuet. Bossuet a introduit la rationalité dans le discours historique. Le discours sur l'histoire universelle, c'est un essai de comprendre rationnellement l'évolution des sociétés humaines, la suite des empires, montrant par quelles causes on passe d'un empire à l'autre. Bossuet pensait que ces causes, c'était en réalité le bras de Dieu, l'inspiration de Dieu dans l'histoire. Mais il suffit de supprimer cette influence divine pour voir que l'ambition de Bossuet, c'était introduire la rationalité dans l'histoire, de même en politique. Bossuet suit de très près l'Écriture sainte dans sa politique, tirée des paroles de l'Écriture sainte. Et l'on pourrait penser qu'il y a là une entreprise pour pas à pas fonder toutes les formes de l'action politique sur des citations bibliques remontant à plusieurs millénaires. Mais Bossuet a une position extrêmement rationnelle. Pourquoi faut-il un pouvoir monarchique? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait l'unité dans le pouvoir? C'est parce que l'unité est préférable à la multiplicité. Bossuet, dès le début de sa politique, nous montre les qualités de l'unité plutôt que celle de la multiplicité ou de la division, et ainsi de suite. À chaque fois, il nous montre pour quelle raison, c'est-à-dire par quelle rationalité, le souverain doit être fort, pourquoi il doit être miséricordieux, pourquoi il doit gérer les finances publiques, etc. Évidemment, il y a tout un arsenal, je dirais, de citations bibliques qui viennent derrière. Mais derrière, il y a une construction d'une extrême rationalité. Que cette rationalité tombe à faux et que le pouvoir de la monarchie moderne n'ait pas eu besoin de ces efforts de Bossuet pour le soutenir. C'est assez significatif d'abord que la politique de Bossuet n'a été publiée que bien après sa mort. La première édition est en 1709 et elle n'a eu qu'un écho extrêmement faible. Plus personne ne s'est appuyé au XVIIIe siècle sur la politique de Bossuet. Bossuet ne l'a jamais publié, et même il n'est pas certain qu'il ait songé sérieusement, sauf à l'extrême fin de sa vie, à publier ce texte. Donc c'est un texte qui était anachronique peut-être même dès sa naissance, mais ce qui me frappe, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la rationalité du propos. Bossuet est quelqu'un qui veut penser rationnellement l'État, la politique, l'histoire, l'approche des textes, la théologie, qui est aussi une forme de rationalité pour lui.
Encore vraiment pris toute sa consistance, va devenir un vieillard assez fermé, assez cadenassé.
Oui, vous avez tout à fait raison, et je me rappelle que mon maître Jacques Truchet, le grand spécialiste de Bossuet qui nous a quittés il y a 3 ans, Jacques Truchet me disait, moi, à partir des années 1685-86, je n'arrive plus à suivre Bossuet. Parce que, précisément, il regrettait que Bossuet soit devenu, sur la fin de sa vie, eh bien oui, cet homme sombre, cet homme aigri, je dirais cet homme sur la défensive. La fin de sa vie nous montre un Bossuet en constante position de réaction contre les innovations. Et toutes les innovations, et cela finit par nous paraître un peu regrettable, enfin.
Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut lire Bossuet, Jean-Pierre Landry ? En effet, on lit Bossuet pour sa langue, voilà.
Oui.
Mais pourquoi d'autre encore ?
Alors, on peut le lire d'abord dans une perspective historique, parce que Bossuet, c'est une voie d'entrée tout à fait privilégiée dans l'atmosphère du XVIIe siècle. La spiritualité du XVIIe siècle. Je crois que pour comprendre ce qui traversait l'esprit et le cœur des gens du XVIIe siècle, il n'y a pas de meilleure lecture que les sermons de Bossuet. Parce que vous voyez défiler là toutes les peurs, mais aussi toutes les aspirations, tous les rêves, tous les espoirs et en même temps toutes les angoisses de cette époque. Et je crois que il y a là, pour l'histoire des mentalités, une série de documents tout à fait irremplaçables, à mon avis. Alors ça, c'est un premier point. Et puis, oui, il y en a un autre, en effet. Bossuet, n'est-ce pas, c'est le grand style. Quand on lit Bossuet, je crois qu'on est sensible à une tension. Il y a une tension entre son grave ministère et l'austérité du message qu'il porte, et puis d'un autre côté, le brio, l'éclat de cette parole en fait, enfin l'éclat de cette parole brillante, ces paroles qui sont d'une cadence, qui sont d'une richesse d'image à nul autre pareil. Vous voyez, il y a un tableau qui me fascine. Je pense que tout le monde le connaît, c'est le tableau de Hyacinthe Rigaud qui se trouve au Louvre et qui représente Bossuet en majesté. Ce tableau est de 1702 et ce tableau représente un prince de l'Église, un prélat qui pose avec une prestance, avec une présence, avec une magnificence. Et ce tableau, je crois, risque de faire du tort à Bossuet. Parce que ce tableau nous présente un personnage solennel, empesé dans ses ors, avec entouré d'un fracas de draperies extraordinaires, avec les pourpres. C'est à la fois somptueux, admirable, mais intimidant. Mais, si nous faisons l'effort de dépasser cette image, alors là, nous allons trouver dans les sermons de Bossuet tout autre chose. Nous allons trouver une inquiétude, nous allons trouver même une fêlure, nous allons trouver une angoisse, nous allons trouver quelque chose qui fait la peur de l'homme, quelque chose qui dit que nous sommes mortels, que nous avons un idéal et que nous le trahissons sans cesse. Il y a, me semble-t-il, chez Bossuet, un admirable tremblement de l'écriture, quelque chose qui nous dit sans cesse la distance entre ce que nous rêvons d'être et puis ce que nous sommes. Et cette distance, c'est probablement, dans le langage de Bossuet, ce qu'on appellerait le péché. C'est peut-être aussi, aujourd'hui, ce que nous pourrions appeler le tragique de la condition humaine.
Une vie, une œuvre, Jacques Bénigne Bossuet, 1627-1704, avec Thérèse Goyet, Jean-Pierre Landry, Patrick Dandré, Gérard Ferrérol, Jacques Lebrun. Texte lu par Jean-Baptiste Malartre. Thomas Coudreuse, Yves Baudry, Jean-Pierre Pernel, Jouan-Richard Dufour, François Connac, Christine Goémé.
présente Richard II de Shakespeare dans une mise en scène de Thierry Le Peretti du 9 au 31 janvier au Théâtre de la Ville à Paris. Complot, trahison, secret, dénonciation, la lutte à mort de deux cousins, la chute inexorable du roi Richard et la tragédie d'un homme qui possédait tout et à qui tout fut repris. Richard II au Théâtre de la Ville du 9 au 31 janvier à retrouver dans les émissions de France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 22h. Jean-Marc Chardon vous présente le